savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tous les cinémas du monde. Qu'ils soient bruts, oniriques, frontales ou animés, de formes courtes ou longues, expérimentales ou très grand public, ce n'est pas un genre ou une sous-catégorie du 7e art, mais bien du cinéma. Je parle du, ou plutôt des, films documentaires qui, comme chaque année au printemps, sont célébrés au Centre Pompidou dans le cadre du cinéma du réel. L'an dernier, explosion de coronavirus oblige. Le festival avait dû basculer partiellement en ligne, devenant tristement le premier des rendez-vous internationaux à annuler sa tenue physique et rebelote en 2021. Mais cette fois, les organisateurs n'ont pas été pris de court et ont pu lancer une chaîne YouTube, Canal Réel, avec des débats et des bandes annonces des films sélectionnés. La plateforme Tank vient de mettre en ligne une programmation spéciale de cette 43e édition. Il y a également un corner sur la plateforme Univers Ciné et puis des premiers longs métrages visibles sur Mediapart. Cette semaine, nous faisons le point sur le réel avec Catherine Bizerne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée générale et directrice artistique du festival qui s'est achevé il y a quelques jours et vous êtes en ligne du Moulin d'Andé puisque vous y dirigez notamment les résidences d'écriture. En ligne également, mais de Bruxelles, Rosine Bakam, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs les plus fidèles se souviennent sans doute de vous puisque nous vous avions reçu avec Elisabeth à l'été 2019 à l'occasion de la projection de votre précédent long métrage chez Jolie Coiffure. Votre nouveau film, Les prières de Delphine, était sélectionné en compétition au réel et y a décroché le prix des jeunes. Et puis en duplex de France Bleu Saint-Étienne, Nicolas Matos et Chasso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes documentariste, votre premier long métrage, Incandescence des hyènes, tourné à Harare en Éthiopie, était également en sélection au réel. Voilà, hein, ces chants d'oiseaux ne s'échappent pas du studio 1 de RFI, mais plutôt du teaser de la chaîne du cinéma du réel. Catherine Bizerne, nécessité faisant loi, vous êtes lancée dans une forme de télévision cette année?
Oui, oui, on a joué à la télé, on peut dire ça comme ça. Juste un mot sur ce teaser, en fait. Comme vous le savez, notre invité cette année était Pierre Creton et ce sont les bruits du jardin de Pierre que vous entendez sur le teaser. Il a fait le tour de sa maison pour nous envoyer tous ces sons. Donc il y a à la fois les oies, les poules, la chèvre, l'âne et les mouettes et le vent. Voilà, c'est un petit tour de vateteau à l'écoute qu'on donnait à entendre pendant le teaser à chaque fois que on le montrait.
Pierre Creton, pour nos auditeurs, c'est un documentariste qui était célébré cette année au réel et qui a un profil vraiment particulier.
Oui, c'est un cinéaste qui occupe son temps au cinéma, mais aussi aux travaux des champs, puisqu'il est jardinier et apiculteur, et que son cinéma est un cinéma qui part d'un point qui est ce village de Vateteau où il a élu d'un domicile lorsqu'il était jeune adulte et qui va comme ça par cercle concentrique de plus en plus loin dans un territoire du cinéma qui est basé sur la rencontre et sur la bienveillance.
Comme on dit dans le journalisme, il n'y a pas de petits reportages. Hein. Le reportage peut être au coin de la rue et je pense que Pierre Creton il illustre aussi ça, que dans le documentaire, il n'y a pas de petits ou de grands sujets. Le documentaire peut s'intéresser effectivement au coin de son jardin. Rosine Bakam, vous présentiez cette année les prières de Delphine au réel, hein, donc prix des jeunes, nous y reviendrons. C'est la première fois que vous présentiez un film dans ce festival international?
Oui, au réel, oui, c'est la première fois.
Qu'est-ce que ça représente justement le réel sur la carte? Parce que vous, vos films, vos précédents films, hein, ont fait le tour des festivals et notamment été projetés au FESPACO. Que représente une sélection au cinéma du réel?
En tout cas, dans les pays francophones, c'est une référence comme festival et pour moi, c'est une grande visibilité. Et oui, ça me fait plaisir d'avoir une sélection réelle, surtout que mes deux précédents films n'ont pas été très vus en France et pour moi, c'était comme une entrée en France.
Et quant à vous, Nicolas Matosicciasso, Incandescence des hyènes étant votre premier long métrage, un premier film, j'imagine qu'une sélection dans ce festival est déjà en soi un formidable encouragement.
Oui, c'est ça. Ça fait très plaisir d'avoir été sélectionné à Cinéma du Réel. Ça fait plaisir pour moi, pour tout le travail que j'ai pu faire d'écriture et également pour toute l'équipe du film qui se sont battus comme des damnés pour qu'on arrive à un très beau résultat. Donc ça fait très plaisir.
Surtout que c'est un film, votre premier long métrage que vous avez, pour lequel vous aviez lancé une cagnotte en ligne hein, sur Kiss Kiss Bang Bang.
Oui, alors j'ai commencé à écrire ce film tout seul, donc j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. J'en ai guère plus maintenant, mais en tout cas à ce moment-là j'avais besoin d'argent pour payer les repérages et donc j'ai lancé une cagnotte Kiss Kiss Bang Bang. Et après le film s'est développé avec la Fabrica Nocturna et le producteur Xavier Rocher, avec qui j'ai signé pour ce film. Only a
fool. Une nouveauté musicale sur RFI, la belle voix chaude de l'américaine Valérie June et ce titre de son tout nouvel album, Call Me a Fool. Bien sûr, RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde, consacré cette semaine à l'édition 2021 du grand festival de documentaires, le cinéma du réel, qui vient de s'achever, mais dont une sélection de films est actuellement disponible sur les plateformes Tank et Univers Ciné. Catherine Bizerne, Cinéma du réel, on le disait, c'est un festival international qui sélectionne des films du monde entier. Le Grand Prix cette année a été décerné à The Inheritance de Ephraim Assili, j'espère que je prononce bien son nom, dans lequel le réalisateur revient, voire reconstitue hein, ses années de lutte aux États-Unis dans un collectif d'activistes noirs américains. Un film qui mêle les formes, alors c'est peut-être pas un documentaire pur et dur, je mets d'énormes guillemets, hein, comme le grand public peut l'imaginer. Il y a des tendances dans le documentaire, Catherine Bizerne, justement, on peut y voir des mélanges de formes.
Oui, je trouve qu'on est à un moment assez intéressant pour le cinéma documentaire, c'est que il n'y a pas de forme plus... Enfin, en tous les cas, nous, au cinéma du réel, on ne s'arc-boute pas sur une forme en particulier et on est accueillant pour toutes les tendances que l'on voit se déployer de plus en plus et que moi, j'aime bien appeler documentaire. On a à la fois, voilà, comme The Inheritance, un film qui est plutôt du côté de le reenactment, même s'il y a des vrais moments de témoignage.
Donc, reenactment, c'est faire rejouer par des comédiens ou par eux-mêmes, hein, les propres intervenants, des séquences qui n'ont pas été captées.
Voilà, c'est ça. Oui, et qui aussi est une façon de mettre en scène, même de manière qu'on dirait de reconstitution, mais aussi de choses du quotidien, quoi. Et on fait jouer les gens comme s'ils étaient des comédiens. Donc ça, c'est une tendance qui permet aussi de parler de choses qui sont parfois difficiles dans le documentaire, en particulier la mort, par exemple, comme le film Fist, qui a gagné le prix des premiers films, qui était un film hollandais. Et puis, on a évidemment tout un pan du cinéma documentaire qui vient de l'art contemporain, avec un cinéma beaucoup plus conceptuel, qui se mélange aussi aujourd'hui avec le cinéma d'anthropologie et aussi le cinéma expérimental, et puis avec une tendance, je trouve, et le cinéma de Nicolas est de ce côté-là, où on essaye de capter quelque chose d'une réalité invisible, et qu'il s'agit dans le documentaire non pas simplement rendre compte de ce qui se passe et de ce que l'on voit, mais de ce qui se passe et que l'on ne voit pas, et de la manière dont la réalité est faite d'une épaisseur de choses, comme nous l'a appris à Pichapong Veracitakul, qui le fait très bien en fiction. Mais je trouve qu'il y a toute une partie du documentaire qui s'intéresse à rendre compte de cette réalité invisible. Et puis, du côté d'un documentaire qu'on attend plus peut-être, il y a, et le film de Rosine en est un exemple, ce côté du cinéma qu'on appellerait le cinéma direct, où on se confronte de manière beaucoup plus frontale à la réalité, et voilà, et c'est toute tout un pan du cinéma documentaire qui existe depuis très longtemps, qu'on a appelé le cinéma direct, qui continue à exister, qui continue à être vivace, avec des choses qui sont du côté du récit, comme par exemple le film de Claire Simon, Garage des moteurs et des hommes, ou des choses beaucoup plus un cinéma de la parole, et là pour le film de Rosine, d'une manière magnifique, du monologue, qui est aussi un cinéma vivace et un cinéma que nous, on aime voir et donner à voir à cinéma du réel.
Alors justement, parlons du film de Rosine Bacam, Les prières de Delphine, ou le témoignage face caméra d'une jeune Camerounaise à l'histoire personnelle très lourde, très difficile, venue se marier en Belgique et qui fait montre devant votre caméra, Rosine Bacam, d'un caractère bien trempé.
Embassy woman, ask me. Il sait, madame, si vous allez à Bruxelles, que la Belgique, il est bien, vous allez rester là-bas ou vous allez revenir. Asabidi, asna visa touristique. Asse, madame, excusez-moi, toi que tu es ici au Cameroun, si tu vas quelque part qui est plus meilleur que ici, est-ce que tu vas revenir? Asse, non, hein? Si je vais là-bas que c'est plus bien, je ne reviens pas. Et vous voulez que je mange? Elle nous fait mentir. Ah, si tu quittes pauvreté, tu vas dans la richesse, tu restes là-bas. Elle a mis le cachet, elle m'a refusé le visa avec la haine. Et puis, elle m'a appelé encore pour l'interview. J'étais enceinte, je faisais mon possible pour qu'elle voie qu'il y a la femme. Parce que comme j'avais le cabas, avec le cabas, on ne voit pas la grossesse de quelqu'un qui a un petit ventre. Alors j'ai attaché mon cabas derrière comme ça. J'étais partie avec un pagne. J'ai mis le pagne comme ça. Tu sais, le cabas, il est un peu comme la robe-ci. J'ai pris mon pagne, j'ai mis mon cabas dedans comme ça. J'ai mis le pain comme ça.
Voilà, alors c'est Delphine hein, devant votre caméra, Rosine Bakam, et Delphine qui raconte hein, comment elle obtient finalement, elle va obtenir un visa de l'ambassade de Belgique hein, à Yaoundé, puisqu'elle vient du Cameroun. Alors, faut la présenter aux auditeurs, hein, Delphine, c'est une jeune femme, on apprend au début de votre film, elle a une histoire personnelle très 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 douloureuse. Hein. Elle n'a que 5 ans quand sa mère meurt en couche, elle se fait violer à 13 ans, elle tombe enceinte, elle n'est pas défendue par son père, elle se prostitue pour survivre et pour aider sa famille, et donc elle finira par se marier avec un Belge. Rosine, et votre film repose entièrement sur sa parole, entièrement. Et vous la filmez, vous faites le choix très fort de la filmer toujours dans la même pièce.
Oui, mes films reposent sur la parole parce que j'ai envie de parler cette Afrique aujourd'hui parce qu'on a longtemps parlé pour elle, on a longtemps parlé pour l'Afrique. Et mes films reposent essentiellement sur la parole parce que justement, quand on a souvent parlé pour l'Afrique, on ne l'a jamais entendu réellement se déployer dans tous ses aspects. Et voilà, Delphine, c'est un film de parole parce que Delphine avait envie de sortir d'elle tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a encaissé ici, comme au Cameroun, et de nous confronter à ça, de nous confronter à cette violence que cette violence du regard, cette violence des traditions, cette violence d'un système, elle nous met un peu face à nos responsabilités aussi en tant que citoyen, en tant que copine, en tant qu'amie, en tant que juste être humain.
Et le choix de la filmer exactement dans cette pièce, alors il y a différents angles, mais c'est justement pour que le regard ne soit pas distrait par autre chose, pour qu'on puisse recevoir, comme vous dites, cette parole qui peut être de colère, qui peut être de demande de reconnaissance. Regardez-moi comme je suis, ne me jugez pas trop vite.
Avoir cette parole directe, mais tout simplement raconter que ces filles, comme dans mon précédent film chez Jolie Coiffure, c'est également un huis clos filmé dans un salon de coiffure ici en Belgique. C'est juste raconter ces filles, leur vie se résume à un espace. La vie de Delphine se résume à un espace. On parle de confinement aujourd'hui, mais il y a une partie de la population, c'est-à-dire les immigrés, vivent dans des espaces réduits. Delphine, sa vie, comme son mari ne l'a pas introduite à l'abbaye, sa vie se résume à ça, à sa maison. Et les sans-papiers, leur vie se résume à certains espaces pour ne pas s'exposer. Donc c'était également montrer les multiples prisons dans lesquelles, en tout cas, la vie de Delphine a été enchaînée. La prison d'un regard, la prison d'être femme africaine, la prison d'un système et la prison de l'Europe, tout simplement. C'était un peu ça qui justifiait pour moi le choix de ce huis clos, parce qu'il y a des strates d'enfermement dans sa vie.
Catherine Bizerne, vous connaissiez, vous aviez repéré le travail de Rosine Bakam avant de sélectionner ce film?
Oui, j'avais vu le film précédent, mais je dois avouer que quand j'ai vu Les prières de Delphine, et d'ailleurs c'est toujours comme ça que je fonctionne, j'ai regardé le film pour ce qu'il était et je ne savais pas qui avait fait le film. Enfin, je fonctionne comme ça dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, beaucoup de gens m'envoient directement leurs films et beaucoup d'amis cinéastes, je connais les projets de beaucoup d'amis cinéastes, mais quand c'est possible pour moi, on me montre un film, quand le comité de sélection fait remonter un film et que je le regarde, généralement, je ne regarde pas qui a fait le film pour prendre le film pour ce qu'il est. Et j'avais pas fait le lien avec le film précédent de Rosine. Ça a été pour moi un espèce de coup de poing dans la figure et de fascination aussi pour ce visage, pour le visage de cette femme et pour la force de Rosine de ne jamais lâcher et de rester comme ça dans un rapport extrêmement tendu et extrêmement brut à la parole de Delphine, en osant cette proximité comme ça sans filtre. Et j'étais vraiment très, très impressionnée par ça.
Alors, preuve de l'éclectisme du cinéma du réel, Catherine Bizerne. Hein, donc, les deux films que j'ai choisis pour cette émission explorent des terrains différents du documentaire. Mais ils ont deux points communs, l'Afrique, et aussi à leur manière, un choix formel radical, la parole brute pour les prières de Delphine, et au contraire, pas de parole ou si peu hein, pour le premier long métrage de Nicolas Matteau-Cicciasso, Incandescence des hyènes. Là, on entend hein, un extrait de votre film, Nicolas Matteau-Cicciasso. Vous avez filmé principalement de nuit à Harare, en Éthiopie, le travail d'un forgeron. Et donc, ce choix, il n'y a pas de parole quasiment dans ce film. Pourquoi ?
Oui, il n'y a pas de parole parce qu'en fait, j'ai voulu privilégier la parole des corps au travail. En fait, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Et je voulais créer une certaine musicalité en fait, avec le rythme. Comme on l'entend, là, il y a les marteaux, au début de l'extrait, il y a les marteaux qui frappent de manière presque épileptique, en fait, jour et nuit dans les ateliers. Je trouvais que ça crée une musicalité très forte qui se rapprochait du rock industriel, presque. Et en fait, l'idée, c'était de faire parler les corps et pour montrer, en fait, comment ces travailleurs du fer, ces forgerons qui sont très pauvres, qui sont très précaires socialement, comment ils bossent, comment leur travail les transforme, comment le travail leur abîme le corps. Et voilà, donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de paroles pour ça, en fait, et que je trouvais ça très bon, en fait, de faire vivre cette histoire de forgeron dans la nuit fantomatique de Harare à travers une transformation des corps au travail.
Est-ce que vous vous êtes formé au travail du fer pour faire ce film, ou est-ce que c'est le fait, il y a des années ça, de vous être formé, qui vous a donné envie de partir en Éthiopie sur les traces de ces forgerons?
En fait, j'ai fait une reprise d'études en anthropologie il y a maintenant 10-15 ans, je dirais, et en fait, je me suis intéressé à la question de la forge à travers ces études, ce qui m'a donné l'occasion de partir en Éthiopie pour commencer des recherches, des repérages en fait plutôt anthropologiques, mais pas forcément dans le but de faire un film au départ. Et ensuite, en découvrant la ville de Harare, en découvrant ces forgerons, j'ai voulu faire un film. Et moi, je me suis formé en tant que ferronnier d'art pour connaître le métier de l'intérieur, pour découvrir les sensations du travail manuel, la souffrance aussi du travail manuel. C'est un métier très dur, la forge. Et donc, pour comprendre vraiment comment ça marche, ce métier. Et ça m'a donné beaucoup de clés, en fait, en termes de tournage, pour savoir comment ces gars-là travaillaient.
Il y a une fascination pour le feu, il y a une fascination pour la transe, presque, hein, dans votre film.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ces rythmes hypnotiques, toute la nuit, ils travaillent énormément, ils bossent toute la journée, et en fait, ils frappent le métal sur l'enclume, mais ça crée des rythmes qui apportent presque une transe naturelle, je dirais, par l'effort du travail. Et se rajoute aussi une dimension qui est la consommation excessive de chat, donc le cat, qui est une plante amphétamine par beaucoup, beaucoup de gens dans la corne de l'Afrique, et principalement à Harare. Et donc ces forgerons, pour tenir le coup, ils consomment énormément de chat. Et donc ça permet également de jouer sur une possibilité de fantastique à travers cette plante.
Je suis le charognard et avec moi vient la nuit, mon doux royaume. Je suis la mort et viennent les esprits, frères et sœurs nocturnes. À mes doigts, des babioles rouillées. À mon cou, des os brillants de lune pâle. Mes canines tranchent les chairs et coupent les coups de leurs couteaux d'ivoire. Tombeaux et mausolées m'accueillent en leur sein, verres de pierre et de limon, salles de vent, puants d'ordures. Mon échine rouillée se secoue sous le vent. Mes pattes vont par quatre et leurs ergots crasseux rythment mon chant boiteux, crépusculaire. Tchat, tchat, tchat.
Alors là, Nicolas Matteau-Cicciasso, on entend un poème, c'est à la fin de votre film. Et c'est de votre composition, oui, ou c'est du Rimbaud? Parce qu'on pourrait penser à du Rimbaud qui est allé en Éthiopie.
Merci pour le compliment, mais c'est bien une composition à moi. Alors oui, c'est un moment à part dans le film qui arrive à peu près à 10 minutes de la fin, en fait. Enfin, juste pour expliquer un peu la genèse, j'ai également appelé ce film Incandescence des hyènes parce que tout est parti d'une légende locale, une vieille légende qu'on m'a racontée sur place, qui dit que les forgerons se transforment en hyènes à la nuit tombée pour commettre des exactions. Et donc, par rapport à ça, j'ai commencé à écrire avec les forgerons de Harare et qui, eux, ont bien rigolé par rapport à cette légende parce qu'ils ont autre chose à faire que de se formaliser de ce statut un peu bancal qu'on veut leur donner. Donc, en fait, l'idée, c'était un peu de tordre le cou à cette légende, mais de manière poétique, de manière un peu fantomatique. Et cette voix off, en fait, sert de tremplin vraiment pour basculer pour passer le miroir fantastique de la dernière partie du film qui essaye de superposer différentes strates de réalité dans la ville de Harare la nuit. Et donc, pardon, ouais. La voix off, du coup, c'est Magali Bona qui l'a dit magnifiquement.
Alors, j'ai une question à tous les deux, Nicolas Matossi-Chasso et puis Rosine Bacam. Il vaut mieux être proche de son sujet pour faire un film. Par exemple, vous disiez, Nicolas, vous connaissez le travail du fer. Alors, vous n'êtes pas éthiopien vous-même, mais vous avez vécu presque dans votre corps. Enfin, vous savez physiquement ce que ça peut représenter. C'est important d'avoir quand même un lien avec son sujet quand on filme un documentaire, quand on tourne.
Moi, ça m'a donné une certaine légitimité pour accomplir ce travail de documentaire. Après, moi, je viens d'une famille d'ouvriers métallos par mon père et mon grand-père. Et j'ai aussi connu ce que c'était de rentrer du boulot fatigué par l'usure des corps au boulot. Donc ça, c'est pour le côté plus social. Et après, pour le côté de la forge, oui, moi, ça m'a donné une certaine légitimité. Et de connaître ce travail-là, ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus au niveau des repérages. Quand j'ai rencontré mes amis les forgerons, Imano et Mohamed, ça m'a donné beaucoup plus d'armes pour travailler avec eux, en fait, tout simplement. Ils ont vu que j'étais pas complètement largué sur ce que je voulais faire avec eux, quoi.
Et vous, Rosine Bacam, c'est important d'être proche du sujet que vous filmez, en l'occurrence ici, Delphine ?
Oui, pour moi, il est très, très important d'avoir une relation avec les gens qu'on filme. Il n'y a que comme ça qu'on peut construire une histoire. Parce que si j'ai pas de relation avec mes personnages, qu'est-ce que je raconte? Je viens plaquer ma réalité sur les gens que je filme. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Je veux pas prendre le pouvoir sur la réalité des gens. Alors pour moi, il est important de construire, si on n'en a pas, de construire une relation et d'établir. Et de cette relation va naître le film. Et le film de Delphine en est un parfait exemple parce que ça faisait combien 7 ans qu'on se connaissait avant qu'elle ne me demande de faire un film sur elle. Et pour moi, c'était un beau cadeau parce que le travail était fait.
C'est elle qui vous a demandé de faire le film ?
Oui, c'est elle qui m'a demandé de faire un film sur elle, sur son histoire. Elle m'a dit qu'elle avait des choses à me dire. Ça faisait 7 ans qu'on se connaissait. Je lui ai dit, on est amis depuis 7 ans, je connais un peu sa vie. Elle m'a dit non. Et c'est comme ça qu'elle m'a raconté un pan de sa vie que je connaissais pas et qui me permettait d'aborder tous les questionnements qui m'ont amené au cinéma, les rapports Nord-Sud, la société patriarcale dans laquelle j'ai grandi. Donc, elle résumait un peu tout ce qui m'avait donné envie de faire du cinéma.
Ah, c'est, pardon, c'est incroyable. Parce qu'on sent qu'elle a une forte personnalité. D'ailleurs, vous avez laissé, donc ça c'est un choix de montage, vous avez laissé les moments où elle dit c'est quoi aujourd'hui au programme, et on a l'impression que c'est elle un peu qui dicte son rythme.
Oui, c'est elle qui, elle le dit parce que dans tout le film aussi, on rigole un peu de cette manière de faire du cinéma où il faut tout préparer à l'avance, où il faut tout connaître à l'avance, où le réalisateur, c'est celui qui sait, c'est celui qui construit l'histoire. On en rigole de cette manière de faire du cinéma parce que justement, on veut faire un autre cinéma. Moi, en tout cas, je veux faire un autre cinéma. Delphine, elle a intégré ça, ces codes-là, et elle se dit, Rosine, tu dois me dire ce que je dois faire. Mais je lui dis, je ne sais rien, ton histoire, c'est toi qui la détiens. Donc, elle revient avec cette idée de carnet de bord pour lancer la conversation parce que quand je la lance, elle finit par faire le choix de me dire ce qu'elle a envie de me dire. Donc voilà, c'est aussi tout au long du film, on re-questionne ce que c'est que le cinéma documentaire, comment il se fait le cinéma documentaire, comment, voilà. C'est multiple, le cinéma documentaire, comme le disait Catherine, il y a des manières multiples de faire le cinéma.
Alors, votre film Les prières de Delphine, Rosine Bacam, a obtenu le prix des jeunes au cinéma du réel. Et Catherine Bizerne, c'est vraiment un prix bien doté. Il y a 15 000 euros, je crois, vous me corrigerez, pour le distributeur et une programmation sur Ciné+.
Oui, en fait, c'est donc un prix qui est doté par Ciné+, qui donc fait un achat de droits de 15 000 euros qui va au distributeur du film français. Donc il y a donc des conditions, il faut que le film ait un distributeur, que le film sorte en salle et une vraie sortie en France, et ensuite il est comme c'est un achat droit, il est montré sur Ciné+. C'est un prix important à la fois parce que pour moi c'est important d'aider le cinéma documentaire à être montré en salle. C'est d'ailleurs ce cinéma qui m'intéresse, c'est ces films-là qu'on met en avant, et c'est vrai qu'en France on a la chance d'avoir des distributeurs qui s'intéressent beaucoup au cinéma documentaire, on des exploitants qui aiment en montrer et du public qui aime le voir. Et puis c'est un prix qui pour moi est important aussi parce que ce sont des étudiants qui le remettent, et je pense que c'est important de remettre en lien les jeunes qui sont des véritables prescripteurs, qui quand entre eux se disent vraiment quels films ils aiment, et c'est des bandes de gens qui regardent les films, et donc de les connecter avec la salle, c'est aussi ça qu'on voulait faire en réservant le choix du film qui serait soutenu par Ciné+ à la distribution à un jury d'étudiants.
C'est un enjeu pour vous, Rosine Bacam, justement la distribution du film, en l'occurrence, sachant que, alors je le précise, mais vous avez peut-être développé, je sais que les prières de Delphine, enfin vos films précédents et les prières de Delphine connaissent du succès aux États-Unis.
Oui, mes films ont un distributeur américain, donc pour les précédents films, on a eu une sortie en salle aux États-Unis, on a fait une tournée dans 10 États aux États-Unis, et les films ont une vie incroyable là-bas. Et en France, on cherchait un moyen aussi de faire connaître mon travail. Je pense que le cinéma du réel nous a donné cette opportunité-là, et également le prix nous donne cette opportunité-là de peut-être pouvoir toucher le public français avec mon travail.
Un film, donc Les prières de Delphine, qu'on pourra voir à la réouverture des salles, on espère en tout cas, et puis on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Rosine Bacam. Avant qu'on aille écouter notre reportage en Afrique, une question juste, Catherine, sur justement l'ouverture aux films africains. Qu'en est-il? Parce que bon, de manière un peu indirecte, puisque votre film, Rosine Bacam, fait le portrait d'une jeune femme et qui est en Belgique, Incandescence des Nicolas Matos-Itchasso a été tourné en Éthiopie, mais on ne peut pas le qualifier de film africain. Qu'en est-il de l'ouverture aux films africains, Catherine Bizerne?
Non, je crois qu'il faut surtout pas confondre le film de Nicolas
Bien
avec
sûr.
Un film africain. Et Rosine est quelqu'un de la diaspora, et c'est son regard à elle, à cette place-là qui compte. Moi, j'ai pris la direction du festival en 2019, et on a eu chaque année un film africain qui était dans notre compétition. Il faut savoir qu'on a une compétition qui est très restreinte, puisqu'on montre 10 longs-métrages étrangers et 10 longs-métrages français, et 10 courts-métrages étrangers et 10 courts-métrages français en compétition, et c'est tout, c'est-à-dire juste 40 films. Et donc, en 2019, le film de Michael Andrianali, Nof Nofu, qui est un cinéaste de Madagascar, avait gagné le prix du premier film. Et puis l'année dernière, Makongo, le film de Centrafrique, qui avait gagné à la fois le prix des bibliothèques et le prix international de la SCAM, donc, et qui a été énormément montré. Donc on aime Disons que on est très ouvert à toutes les nationalités, et quand il y a un film africain ou plusieurs films africains qui nous intéressent, évidemment, on va les montrer et on les montre. Cette année, il n'y avait pas de film africain dans la sélection de la compétition, mais on en avait un. D'ailleurs, le deuxième film de Michael Andrianali, qui était dans notre sélection Paris Doc, une sélection de films en cours de montage, des work in progress. On montre 6 films, donc c'est encore une sélection encore plus réduite. Et là, il y avait donc le deuxième film qu'on espère voir fini bientôt pour le montrer l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique au niveau du cinéma documentaire. Il y a beaucoup de gens aussi qui produisent, qui travaillent au Kenya, en Centrafrique, bien entendu en Afrique de l'Ouest. Et on est très attentif à ce qui se passe, tellement que on prévoit en 2022, pour le festival 2022, en particulier si les gens peuvent à nouveau circuler librement, un panorama du jeune documentaire africain. Et on a déjà travaillé sur cette programmation, et on a des choses intéressantes à montrer qui ont été faites ces 4-5 dernières années, et j'espère des choses qui sont en train de se produire aussi en ce moment. Donc on s'intéresse beaucoup à ce renouveau du documentaire africain, qui est un documentaire qui n'a pas froid aux yeux et qui se fait non pas pour être montré à l'extérieur, mais pour être montré aussi sur le continent africain.
Eh bien, écoutez, vous me fournissez une transition parfaite, Catherine Bizerne, pour le reportage de la semaine, hein, puisqu'on vous emmène à Madagascar. Île, I-L-E. Était une fois, c'est un cri du cœur pour la sauvegarde des métiers en voie d'extinction, de savoir-faire ancestraux désormais détenus par une poignée de passionnés. Depuis une semaine, le documentaire du cinéaste malgache Lova Nantenain est en salle à La Réunion, mais aussi à Madagascar. Tourné et monté façon carnet de voyage, ce long métrage, le second du réalisateur, plonge le téléspectateur dans le quotidien presque hors du temps de 8 témoins malgaches et réunionnais, et offre un regard sans phare sur des histoires humaines puissantes et bouleversantes. Sarah Teto a assisté à l'avant-première d'Il était une fois à Antananarive, la capitale malgache.
Il était une fois des hommes et des femmes détenteurs d'un trésor en danger. Des gens un peu particuliers, comme aime gentiment les qualifier le réalisateur Lova Nantenain, qui exerce, dit-il,
un métier ou une passion qui risque de disparaître à cause de la raréfaction des ressources ou faute de perpétuer un savoir-faire.
Une passion méconnue comme celle d'Inel, chasseur de guêpes à La Réunion.
Là, les guêpes fait sous les roches. S'il a fait un cyclone, ils sont abrités. Après, il va faire des gros nids dans les arbres.
Et du coup, ça, mine de rien, c'est vraiment considéré comme un caviar, en fait. Il y a plein de gens, je sais, moi, dès que j'ai dit à mes amis, viens manger des guêpes à la maison, ils sont là. Oh, des guêpes! Parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et de rare, en fait. Nous, on a de la chance parce que papa, c'est sa passion. Donc.
Chasseur de guêpes, saunier des marais salants, tisserand, autant de petites voix pour sonner l'alerte que Nicole, spectatrice, a écouté avec attention.
Ces gens dont on ne parle jamais, en réalité, ce sont des gens qui intéressent très peu parce qu'ils sont très peu médiatiques. Je suis très, très, très contente que quelqu'un leur redonne la parole. C'est très important parce que ce sont des gens qu'on oublie.
En offrant une tribune à ces oubliés, le réalisateur a aussi voulu montrer qu'un développement différent de nos sociétés était possible, loin de ce qu'il appelle le rouleau compresseur de la globalisation.
La première richesse à La Réunion et à Madagascar, c'est l'homme et la femme. C'est-à-dire que nos connaissances, nos savoir-faire et notre manière de faire, traditionnelle ou pas, sont tout aussi importants à préserver, à promouvoir, que la biodiversité.
Dans le film, Clément, un malgache, se bat pour préserver la plus vaste forêt de tapia, un arbre endémique de l'île très prisé des vers à soie. Mais dans le sous-sol, de l'or a été découvert.
Il a l'exploitation minière l'année dernière, les Chinois qui étaient arrivés ici, mais nous, on dit que notre terre, pas pour les Chinois, parce que les Chinois, ils veulent détruire notre forêt de tapia. C'est ça que nous devons lutter jusqu'à la fin. pour sauvegarder notre environnement vert.
Une claque qui sonne comme un rappel à l'ordre, expliquant Binsu à la sortie de la projection.
Ça donne beaucoup à réfléchir. On a vraiment besoin de protéger le patrimoine du pays et surtout lutter, beaucoup lutter contre ça. Parce que ceux qui ont l'argent pour piller, ils n'hésitent pas. Donc c'est à nous, le peuple, de protéger au maximum ce qui nous revient de droit, ce qui est à nous.
Protéger, préserver, pour avoir de quoi léguer à nos enfants, le leitmotiv du réalisateur. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Quand la pluie tombe fort, la dibondie, la peau plairait.
Iniru tsakuranin.
Mon rêve comme un tableau, le banc de couleur l'a débordé.
Tilav, tilayavouk, yanareu ma minifouk. Aizanyanga noutalou, tonou fafana tawandou. Nisi samboupou, tonavalou noutalou. La vitila est anima.
C'était un reportage à Madagascar de notre correspondante Sarah Teto. Bach au piano et au marimba, c'est une interprétation hybride d'un duo de musiciens classiques Tomenko et Vasilena Serafimova sur le disque Bach Mirror. On termine cette émission avec un film de fiction, cette fois qui connaît un grand succès en Afrique de l'Ouest. Son titre, Sankara et moi, c'est une comédie écrite et réalisée par Laurent Deboise.
Il faut préciser que ça n'est pas un film sur Thomas Sankara lui-même, mais plutôt sur l'idée que de nos jours, en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, on se fait de Sankara. Puisque cette comédie met en scène un monsieur tout le monde d'une cinquantaine d'années, qui est un petit peu significatif, disons, de l'Afrique contemporaine. Hein. La course quand même au travail, au profit. Il est directeur de la logistique dans une grande compagnie minière internationale qui a son siège à Toronto, au Canada. Donc, il a réussi, mais il a la cinquantaine. Ce qui veut dire que, il y a 34 ou 35 ans, il avait 15, 17 ans. Autant Thomas Sankara. Et il va être rattrapé par cette époque. C'est-à-dire que tout d'un coup, en se rasant la moustache, parce qu'il a une moustache, et puis la patronne trouve que c'est un petit peu trop sankariste, cette moustache, hein. Ça rappelle un petit peu trop des choses. Il se rase la moustache, et dans son miroir, à ce moment-là, il se voit avec le béret de Thomas Sankara. Et ce béret va le poursuivre. On est dans la comédie, mais dans la comédie qui se veut, comme on dit nous, un peu porteuse de sens, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait face au rêve de notre adolescence ou de notre prime jeunesse, face à des idéaux révolutionnaires qui ont pu exister dans le passé, que fait ce monsieur qui s'appelle Tom? Il a américanisé son prénom, en fait il s'appelle Thomas, comme Thomas Sankara, et donc c'est une comédie comme ça sur l'héritage de Thomas Sankara, sur l'idée qu'on peut se faire aujourd'hui de Thomas Sankara au moment où les assassins vont probablement être jugés cette année.
Alors pendant très longtemps, hein, sous la dictature de Blaise Compaoré, c'était compliqué de prononcer le nom de Thomas Sankara. Puis il y a eu la révolution et de nouveau les Burkinabés ont pu le célébrer. C'est de cela aussi dont parle votre film ?
Absolument, et c'est ça qui est passionnant, c'est que dans les salles où est projeté Sankara et moi, notre petite comédie action, vous avez deux types de publics. Vous avez les gens qui ont par exemple 40, 50, 60 ans et qui ont connu cette parenthèse, cette sorte d'alternative proposée par Thomas Sankara pendant 4 ans, il y a 30, 35 ans, et qui peuvent se remémorer cette période avec une certaine nostalgie. Et ils sont parfaitement en phase avec le film, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce que ressent le personnage principal qui donc est poursuivi par cette conscience sankariste de son passé. Hein. Et puis d'autre part, vous avez des gens très jeunes, puisque n'oublions pas, Sophie, que l'Afrique, et surtout l'Afrique francophone, la population est extrêmement jeune. Vous avez des gens très jeunes qui sont dans les salles et qui, eux, peuvent enfin s'accaparer le personnage de Thomas Sankara et tout ce qu'il symbolise, parce que maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, après la chute de Blaise Compaoré, eh bien, c'est possible d'en parler. Thomas Sankara devient une sorte de rockstar, il est plus connu en Afrique francophone et surtout en Afrique de l'Ouest. Et il faut pas parler seulement du Burkina Faso. Il faut parler de toute l'Afrique, hein, de toute l'Afrique de l'Ouest. Il est plus connu souvent que Nelson Mandela. Hein. Il est sur les t-shirts. Quand vous marchez dans les rues d'Abidjan ou de Ouagadougou, vous avez des gens qui ont des t-shirts Che Guevara, comme partout dans le monde. Et puis, peut-être plus nombreux encore, des gens qui ont des t-shirts avec Thomas Sankara.
Votre film a été terminé fin 2020. Et là, il sort en salle dans toute l'Afrique de l'Ouest. Hein. Pas uniquement au Burkina Faso.
Oui, c'est effectivement un personnage, Thomas Sankara, qui touche tous les Africains. Et donc, le film sort dans toute l'Afrique de l'Ouest par le biais du réseau Canal Olympia. Donc, toutes les salles d'Afrique francophone, puisque le film n'est pas encore doublé ou sous-titré en anglais, toutes les salles Canal Olympia qui sont ouvertes malgré les circonstances sanitaires que nous connaissons. Et puis, il sort au Magic Cinéma de Bamako, qui est un très bon cinéma. Il sort également dans le célèbre Majestic Cinéma, qui a maintenant 4 salles à Abidjan. Il sort à l'Institut français d'Abidjan. Il va ressortir à l'Institut français de Ouagadougou. Il est déjà passé beaucoup dans des salles à Ouagadougou. Donc, il touche vraiment un large public en Afrique francophone.
Alors, j'imagine que vous en êtes heureux, mais est-ce que vous êtes surpris de cette diffusion massive ?
Quand on a eu le projet de faire cette comédie qui s'appelle Sankara et moi, nous savions déjà que Thomas Sankara était une personnalité incontournable en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Donc on savait déjà probablement que ça toucherait beaucoup un large public africain. Mais on en a la confirmation et on est frappé par les réactions des gens en salle qui d'abord comprennent très très bien que ce soit une comédie. Parce que, comme vous le savez sûrement, en Afrique, on aime bien rire. Et il y a même ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest la parenté à plaisanterie. C'est-à-dire qu'on peut se dire des choses très graves, très sérieuses, par le biais de la plaisanterie. Au contraire, ça aide à parler de sujets délicats, de sujets graves. Et donc, les gens comprennent très, très bien qu'on ait pu faire une comédie sur l'héritage de Thomas Sankara. Qu'est-ce qui reste dans notre cœur, dans notre esprit de Thomas Sankara ?
Sankara et moi, une comédie à l'affiche donc de plusieurs Canal Olympia et qui sort le 2 avril à Abidjan, au Majestic Cinéma et à l'Institut français. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Catherine Bizerne, Rosine Bacam et Nicolas Matos-Itchasso.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci à France Bleu Saint-Étienne qui a rendu cette liaison possible. Je rappelle qu'en attendant de voir Les Prières de Delphine et Incandescence des Hyènes en salle, il est possible d'accéder à une sélection d'œuvres du festival sur les plateformes Tank et Univers Ciné, et puis de retrouver des rencontres et débats sur le site cinemaduréel.org. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. Merci aussi à la technique, Fabien Munieret. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma.